RFI, 7h30, à Paris, 5h30 en temps universel. 6h30 à Niamey. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Deux arrestations en l'espace de 48 heures, c'est ce qu'ont vécu trois journalistes nigériens.
Toujours retenus à la gendarmerie d'Agadez, ils avaient relayé une information concernant des accords entre le Niger, la Russie et la Turquie. Vous entendrez l'indignation du président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine. Un barrage de la renaissance, de la réconciliation, de la fraternité et de l'unité des peuples. C'est par ces termes que les autorités congolaises décrivent la centrale de Katende. Les travaux y sont relancés après 9 ans d'abandon et elle doit alimenter les provinces de la région du Kasaï. Le décès de Koyo Okuo dans ce journal, également l'une des grandes figures de l'art sur le continent, elle devait être la première africaine commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise en 2026. Et puis la communication des chimpanzés décortiqués. Des scientifiques affirment que ces singes sont capables de se comprendre en tambourinant, en rythme précis sur des racines. Des singes musiciens ? Réponse dans 10 minutes. Ils avaient été interpellés mercredi soir, puis libérés par un juge vendredi, avant d'être réinterpellés quelques heures plus tard. Les trois journalistes de la Radio Sahara FM d'Agadez au Niger sont toujours détenus à l'heure où l'on parle. À la gendarmerie, ils avaient repris une information du média en ligne LSI Africa sur une affaire concernant le Niger, la Russie et la Turquie à propos de contrats commerciaux et d'espionnage. Je vous propose d'écouter la réaction de Noël Yao, le président de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine.
Chaque fois qu'un journaliste est interpellé de la sorte, c'est d'abord l'indignation. Ce qui est reproché à nos trois collègues, c'est d'avoir relayé une information du site LSI. L'information, selon notre base au Niger, n'a pas été suffisamment vérifiée. Mais nous plaidons pour, dans ce cas-là, passer par les organes de régulation ou alors par le droit de réponse, plutôt que d'embastiller, d'interpeller des journalistes. La place des journalistes, ce n'est pas la prison. L'Union des journalistes de la presse libre africaine, évidemment, ne peut que demander la libération de nos trois collègues journalistes. S'il y a un droit de réponse, ils le feront. Il faut arrêter de toujours choisir la voie de la répression.
Noël Yao, joint par David Baché, le Niger, où les autorités à l'approche de la Tabaski, prévue début juin, ont interdit l'exportation du bétail. Objectif, selon Niamey, assurer l'approvisionnement régulier du marché à l'occasion de cette fête célébrée par les musulmans. Dans le pays voisin, les inquiétudes persistantes des militants pro-démocratie, après des enlèvements et tentatives d'enlèvement par la sécurité d'État malienne ces derniers jours à Bamako, l'un d'eux, Cheikh Oumar Doumbia, a été agressé au couteau dans la nuit de vendredi à samedi. Il a pu échapper à ses assaillants grâce à l'interposition de certains de ses proches. Vous retrouvez plus de détails sur RFI.fr. L'actualité en République démocratique du Congo, également une centaine de morts à déplorer après des inondations dans le village de Kassaba, en territoire Fizi dans la province du Sud Kivu. Un village situé au bord du lac Tanganyika, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Bilan encore flou et provisoire en raison de la poursuite des fouilles. Dans un communiqué, le gouvernement provincial du Sud Kivu, basé à Uvira, indique qu'une équipe a été dépêchée en urgence à Kassaba pour évaluer la situation. La RDC, où les autorités ont officiellement lancé les travaux pour la construction de la centrale de Katende, qui doit fournir de l'électricité aux provinces de la région du Kasaï, dans le centre du pays. Le projet, délaissé depuis une petite dizaine d'années, était censé reposer sur l'aide extérieure, mais c'est désormais Kinshasa qui le porte et qui attend des premiers résultats dans 2 ans. Pascal Moulégua, dans la capitale congolaise, pour RFI.
J'étais sur la rivière Lulua, 80 km de la ville de Kananga. Les barrages hydroélectriques de Katende, c'est 64 MW attendus, mais seuls 16 pourraient être fournis d'ici à 2 ans. Doudou Famba, le ministre congolais des Finances, les qualifie des barrages de renaissance, réconciliation, fraternité et de l'unité des peuples.
Il s'agira de construire une centrale hydroélectrique moderne, ainsi que toutes les infrastructures de transport et de distribution associées. La première phase sera cruciale, avec la mise en service d'une capacité initiale de 16 MW, destiné à la ville de Kananga et la localité de Bukonde. La deuxième phase verra l'ajout de 32 MW. Cette montée en puissance permettra de renforcer l'alimentation électrique des provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, mais aussi de la localité de Chimbulu.
Comment s'assurer que les projets aboutissent quand on sait que des précédentes tentatives de relance ont échoué? Réponse du député John Kabea, ancien gouverneur de la province du Kasaï central, dont Kananga est le chef-lieu.
C'est de voir comment, nous, à chaque loi des finances, de commencer à faire des avances sur le montant global du projet. Dans le cadre des comités de suivi, il faut intégrer les chefs coutumiers et la société civile locale comme cadre de concertation. Parce que la plupart des projets qui ne marchent pas chez nous, parce qu'on a toujours écarté les locaux.
D'après la société civile, cette centrale pourrait accélérer le développement régional avec l'industrialisation, la création massive d'emplois et la valorisation du potentiel minier de la région du Kasaï. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Le gouvernement centrafricain est aussi à pied d'œuvre, lui, pour financer son plan national de développement objectif sur la période 2024-2028, lever 12 milliards de dollars. Richard Filakota et Hervé Ndoba, respectivement ministres de l'économie et des finances, se sont récemment rendus à Washington aux rencontres de printemps de la Banque mondiale. Bangui qui compte sur une série de réunions pour accélérer la mobilisation des ressources. François Mazet.
Premier point positif, selon le gouvernement centrafricain, les projets en cours avec la Banque mondiale se poursuivent et représentent 1,2 milliard de dollars, même si l'institution demande à Bangui d'accélérer leur mise en œuvre. Pour attirer des investisseurs, la Centrafrique a obtenu le soutien du Maroc, qui accueillera une table ronde au mois de juin. Le ministre de l'économie, Richard Filakota, souligne que l'accent doit être mis sur les infrastructures et la transformation des ressources.
Infrastructures routières, infrastructures portuaires, les ports secs, il y a aussi les transports, donc vraiment c'est des secteurs lourds. Il va falloir aussi permettre à ce pays d'avoir suffisamment de sources énergétiques pour permettre aux investisseurs qui arrivent et qui veulent ouvrir des usines, etc., d'avoir les sources d'énergie pour le travail.
Sur la question du passif de la Centrafrique en matière de gestion, le ministre assure que le cadre du PND marque un progrès.
L'objectif qui est visé, c'est de parvenir à une gestion budgétaire basée sur la performance. Et il y a un travail énorme en termes de réforme et de digitalisation pour permettre d'avoir une sorte de traçabilité sur tout ce qui entre dans la caisse publique et tout ce qui sort dans la caisse publique. Et je vois que ce travail qui est en train de se faire va permettre d'augmenter les recettes domestiques qui seront adossées à tout ce que les investisseurs vont amener de l'extérieur.
Le gouvernement mise sur le développement de partenariats publics-privés. Il se félicite qu'un groupe indien a récemment signé pour un projet d'agrobusiness dans le secteur sucrier et le manioc pour une valeur de plus $1 milliard.
La Centrafrique qui accueillera le caucus des pays africains fin juillet à Bangui pour porter une voix unie auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'ONG FODER alerte sur les conséquences de l'exploitation minière artisanale dans des localités situées dans l'est du Cameroun. Exploitation sauvage, disparition des terres agricoles ou encore déperdition solaire. Dans un rapport, l'ONG va même jusqu'à évoquer une catastrophe écologique et humaine. RFI Yaoundé, Polycarpe Samba.
Dans son rapport, le FODER fait remarquer pour s'en inquiéter une augmentation exponentielle des superficies autrefois exploitées pour les activités agricoles et désormais converties en exploitation minière. Justin Chokwa, du FODER.
En 2010, l'activité minière occupait environ 28 hectares et en 2024, cette activité minière occupe environ 4639 hectares de superficie. Donc, de 2010 à 2024, il y a un taux d'augmentation d'environ 5490% d'augmentation de superficie occupée par l'exploitation de l'or.
Conséquence, les denrées alimentaires issues de l'agriculture se font rares, avec une augmentation de l'inflation, constate le FODER, qui s'alarme aussi des risques d'une catastrophe écologique à grande échelle.
Ce qui frappe les visiteurs qui arrivent là-bas, c'est le niveau de déforestation et de dégradation, de conversion du paysage. Le paysage est totalement converti et les rejets sont reversés dans les cours d'eau sans traitement préalable. Et donc, on va aussi constater qu'ils utilisent aussi bien les artisans miniers que les entreprises semi-mécanisées, utilisent du mercure et certains de plus en plus du cyanure pour concentrer de l'or et le récupérer.
Sur le plan social, notamment de l'éducation, l'ONG alerte aussi sur le phénomène de déperdition scolaire. Selon le FODER, il y aurait une désertion de près de 60% des salles de classe, les élèves référant désormais le travail dans les mines, même pour les enfants en très bas âge. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
Koyoko est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Bâle, en Suisse, figure incontournable de la scène artistique africaine. La Suisse-Camerounaise était âgée de 58 ans et Lisa Giraldini, elle devait être en 2026 la commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise.
Elle devait être la première femme africaine nommée à ce poste par l'institution italienne malienne, référence mondiale en matière d'art contemporain. Née à Douala, au Cameroun, Koyokuo a grandi en Suisse avant de s'installer à Dakar en 1996. C'est dans la capitale sénégalaise qu'elle a débuté sa carrière de curatrice indépendante. C'est ici aussi qu'elle a fondé le centre d'art et de réflexion Raw Material Company, compagnie de la matière première. Koyokuo a participé à des événements artistiques majeurs comme la Biennale de Dakar et les rencontres africaines de la photographie de Bamako, avant de prendre en 2019 la tête du Zeitz Moka au Cap, le plus grand musée d'art contemporain d'Afrique. Spécialiste des artistes africains et de la diaspora, elle a mis en lumière des figures comme Abdoulaye Konaté, Tracy Rose ou encore Marie Evans. Personnalité très respectée, engagée, panafricaniste, Koyokuo a défendu toute sa vie l'influence mondiale des cultures africaines dans le paysage artistique contemporain.
Et sachez que la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a exprimé samedi son profond chagrin après le décès de Koyokuo. La fin de ce journal avec cette étude très sérieuse qui concerne les chimpanzés. Des scientifiques avaient déjà montré qu'ils battaient du pied les racines des arbres. Cette fois, d'autres sont allés plus loin. Ils ont analysé plus de 370 enregistrements collectés auprès de 11 communautés issues de 6 groupes vivant dans la forêt humide ou la savane et prouvé que les chimpanzés étaient capables de tambouriner en rythme des singes musiciens. Les précisions de Pauline Glaise.
Ces coups seraient un mode de communication longue distance. En tambourinant sur des arbres, les chimpanzés émettent des sons basse fréquence, perceptibles à plus d'un kilomètre. Encore faut-il se distinguer dans la cacophonie de la nature, analyse Vesta Eleuteri, autrice principale de l'étude.
Le fait qu'il y ait une séquence, ça indique que ce n'est pas seulement un arbre qui tombe. Ça fait comprendre aux autres que c'est un chimpanzé qui tape.
Et tous n'ont pas le même style. En Afrique de l'Ouest, les chimpanzés battent à intervalles plutôt réguliers. Ceux de l'Est du continent alternent plus fréquemment intervalles courts et longs.
Il est possible que ce soit dû à des facteurs sociaux, alors que les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest sont plus pacifiques et sont très souvent ensemble. Les chimpanzés d'Afrique de l'Est sont plus souvent séparés et plus agressifs envers les autres groupes. Donc cette alternance de rythmes courts et longs, c'est peut-être une manière de dire d'autres choses et de distinguer les individus de manière plus marquée.
Des percussions non aléatoires, c'est l'une des briques élémentaires de notre musique. Cela ne signifie pas que les singes jouent de la musique comme les hommes, mais cela accrédite la thèse selon laquelle des ingrédients de la musicalité chez l'homme existaient avant la séparation entre humains et chimpanzés, il y a 6 millions d'années.
Un sujet signé Paul Inglès du service environnement climat de RFI. Et on vous retrouve, Julien Coquel-Rouhem.
Merci Nemo Ampi, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, c'est un...